Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nils. Je vous avoue que là, je suis encore un tout petit peu nerveux parce que c'est le premier épisode de ma nouvelle chronique Histoire de Stop. Chaque semaine, je vous raconterai une de mes aventures que j'ai pu vivre en tant qu'autostoppeur dans les derniers 7 ans. Il sera question de camionneurs, de stations-service, d'ex-militaires, de hippies, de mères avec leurs enfants, de baguettes écrasées et de coups de soleil. Mais surtout, on parlera de glandouiller, d'attendre et de la question que je me suis souvent posée, mais pourquoi je fais ça? Quand j'ai fait une recherche pour Autostop, dans mon appli de podcast, les premières choses qui se sont affichées sont au cœur de crimes, meurtres en France, histoires vraies, tueurs en série, bref, seulement des trucs de true crime. Je m'attendais plutôt à des podcasts enregistrés par des Australiens barbus qui me racontent leur road trip et leur ravioli en boîte sur un réchaud à gaz. Que des histoires de meurtres et d'enlèvements, j'étais un peu déçu. La sélection était sacrément sombre. Je ne sais pas quelle image vous vienne à l'esprit quand vous pensez à un autostoppeur, mais j'espère que ce ne sont pas seulement des scènes d'horreur. L'autostop pour moi, c'est Jack Kerouac, l'auteur américain des années 50 et probablement l'autostoppeur le plus connu. Il sillonne en stop les États-Unis de l'Est à l'Ouest. Dans son roman Sur la route, il raconte le meilleur trajet de sa vie. Deux jeunes paysans s'arrêtent avec leur pick-up. Kerouac grimpe sur la benne pour traverser le Nebraska et le Colorado. Il roule très vite. La nuit, Kerouac se saoule avec du cognac pour se protéger contre le vent froid du trajet. Sept autres agaçants l'entourent, allongés sur la benne. Aussi des autostoppeurs comme lui-même. Soit parce qu'il leur manque les sous pour faire autrement, soit tout simplement parce qu'ils kiffent l'aventure. L'un d'eux, un mec de 30 ans, fait aussi du train surfing. Il monte sur les toits des trains en tant que passager clandestin pour voyager gratuitement. Bien sûr que le stop n'est pas toujours une aventure, comme dans les romans et les films. Ça peut être simplement le seul moyen pour quitter un lieu, surtout quand on se trouve à la campagne et que le dernier bus est parti. C'est même un peu ennuyant parfois. Je me souviens d'une fois où j'ai attendu une voiture environ 22 heures sur l'autoroute dans une aire de repos bien laide. Mais cette histoire, je vais vous la raconter dans un des épisodes à venir. En vérité, il ne faut rien cacher. L'autostop, pour la plupart des cas, est une épreuve de patience et aujourd'hui je vais vous raconter la première fois que j'ai dû le réaliser et pourquoi, lors de mon premier voyage en stop, je ne suis pas monté dans une seule voiture. Après le bac, j'ai voulu partir en voyage. Pour beaucoup de jeunes Allemands, il est normal de découvrir un peu l'étranger avant d'attaquer la fac. On va souvent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais je n'avais pas l'argent pour l'avion. J'ai donc décidé d'aller en Italie avec une amie suisse. On voulait aller à Syracuse en Sicile. Manger des oranges, boire du bon café, s'asseoir sur une plage de la Méditerranée et gagner notre vie comme jongleurs qui font des spectacles dans la rue. Ouais, je l'avoue, on était des sacrés hippies. On avait prévu de procéder par étapes. Le premier jour, il fallait choper une voiture qui nous amènerait de Zurich à Milan. Je n'aurais pas pu choisir un pire point de départ. C'est l'hiver, la nuit de la veille il avait neigé et toute la ville était gelée. Au bord de la rue, une soupe brunâtre s'est accumulée. Mon ami et moi, on se positionne dans cette soupe pour tendre le pouce. Des voitures chères défilaient devant nos yeux. Je pense avoir vu la production annuelle de Porsche ce jour-là. L'avantage d'une Porsche pour un stoppeur est évident. Dans une telle bagnole, on arrive à Milan en deux temps, trois mouvements. Le désavantage, il n'y a que deux places. De plus, avec nos cheveux emmêlés, après une nuit passée sur des tapis de sol chez un ami à Zurich et nos cernes, on s'était levé à 5 heures. On ne colle pas vraiment avec cette voiture de sport profilée. Et nos chaussures mouillées de la neige, honnêtement, on est trop sale. 2 heures sont passées et je commence à désespérer de trouver une voiture. Je suis arrivé au point où je monterai même dans la voiture de quelqu'un qui ne fait que 5 km. Au moins, on aurait quitté ce coin de la ville. C'est un quartier dans l'ouest de Zurich. Un tas d'agences d'assurance se sont installées là-bas. Les rues sont aussi propres, comme si les ouvriers avaient fraîchement collé le bitume et renouvelé, le jour même, les marquages au sol avec cette couleur que les Suisses adorent, contrairement au reste de l'Europe, le jaune. Tout à coup, une voiture s'arrête. J'étais dans la lune, hypnotisé par les 50 pare-brises par minute, donc je ne le remarque pas tout de suite. Mon amie Elisabeth passe devant moi en courant vers la voiture. Je me réjouis déjà de mon premier succès en autostop et je voudrais remercier la personne qui nous libère du froid. Puis, je vois la voiture faire demi-tour et revenir en ville, vers le centre de Zurich. Pas vers Milan, pas vers la Sicile, pas d'orange ou café italien, juste de la neige froide et une soupe brunâtre au bord de la rue. On s'est pris un râteau. En faisant du stop, ces malentendus sont tout à fait normaux. Quand une voiture s'arrête, ça peut simplement être pour une pause clope, pour aller pisser dans les buissons, pour je ne sais quoi. Choper une voiture est ta mission, alors tu penses qu'elle s'arrête pour toi. Mais malheureusement, tu te trompes souvent. Ce jour-là, à Zurich, je ne connaissais pas encore la règle la plus importante du stop. Elle est banale, mais je ne l'apprendrai qu'à Milan. Mon hôte, que j'ai trouvé sur Couchsurfing, a lui-même beaucoup voyagé. Il me dit « The right ride will always come. La bonne voiture viendra toujours. » Il me le dit avec une air mystique, comme si la loi du karma déterminait les heures qu'un autostoppeur doit attendre une voiture qui l'emmène volontiers. Si personne s'arrête, c'était pas la vibe, pas la bonne personne. Mauvaise énergie, mon frère. Alors justement, la vibe à Zurich est fichue. Je prends très mal le demi-tour qu'a fait la voiture et le conducteur et les conducteurs qui passent devant mon bras tendu et mon sourire forcé et deviennent pour le reste de la journée comme mes ennemis acharnés qui font exprès de pas m'aider. Entre eux et moi, un mur se crée. Ils sont les privilégiés dans leur petite maison à quatre roues, tranquillement assis dans leur siège, chauffant et protégés contre le monde inconfortable dans lequel je me trouve. Moi, qui m'inflige le froid de l'hiver, dépend complètement de leur générosité. Après environ 3 heures d'attente, Elisabeth et moi sommes presque au bout de nos forces. Il est midi, et malgré le froid, le soleil est assez fort pour nous donner mal à la tête. L'espoir qui nous reste se nourrit des quelques sourires derrière les vitres des voitures, et aussi des moments où quelqu'un nous klaxonne pour passer le bonjour. À un moment, je suis tellement à l'ouest et en train de m'endormir que le klaxon me fait sursauter. Ensuite, mon cœur bat comme quand tu es réveillé trop tôt par le réveil et l'adrénaline te tient désagréablement éveillé. Je tente un dernier manœuvre pour attirer l'attention et gagner la sympathie des gens. Pendant qu'Elisabeth tend le pouce, je jongle à 3 balles, je fais le clown, je chicote. Tout ça d'un air un peu fou et désemparé. Cependant, on reste sans voiture. Le soleil couchant, on prend le bus pour Milan. Le billet de tramway qui nous a amené du centre de Zurich à l'autoroute et nous a ramené au centre coûte au total aussi cher que le Flixbus pour Milan. Dans le bus vers l'Italie, on traverse les Alpes en mangeant du chocolat suisse qu'on s'est accordé à la gare. Ça me console dans une certaine mesure. Le soir, on passe un bon moment avec notre couchsurfer Matteo qui nous invite à un apéro. On rentre assis sur le siège arrière de sa Vespa. Matteo adore prendre les ronds-points dans le sens contraire. Quand il n'y a pas de voiture, ça va de soi. Peut-être qu'il veut m'impressionner. Je sens de nouveau l'adrénaline qui monte et le battement de mon cœur, comme si un autre Porsche de Zurich m'avait fait peur en klaxonnant. L'idée qu'au matin, le matin après, il faudra se lever à 5 heures du matin pour parcourir encore 1600 km en stop jusqu'en Sicile en voyage aller-retour de Bordeaux à Bruxelles me fait mal dormir. Il se trouve que c'est aussi à cause de Matteo qui s'est mis à draguer Elisabeth dans son lit, qu'on partage à trois. Tourné sur le côté, il me pousse vers le bord avec ses fesses pendant qu'il masse le dos d'Elisabeth, qui a l'air d'apprécier. Finalement, la fatigue ne tarde pas à venir, et je m'endors malgré la position de mon corps un peu forcée. Le lendemain, on se retrouve sur une bretelle de l'autoroute à Milan. Faire du stop en Italie est proscrit sur l'autoroute, mais on s'en fout. Avec un feutre, j'ai écrit Florence sur une pancarte en corps carton. Il y a des ouvriers qui s'arrêtent pour nous souhaiter bon courage. Malheureusement, ils n'ont pas la place pour nous dans leur camionnette. Elle est trop petite. C'est dur de voir partir une voiture dont on sait qu'elle ira où tu veux aller toi-même. On sort le mouchoir pour l'agiter en signe d'adieu. On ne trouvera personne qui nous emmène. Juste une femme me laisse une impression dont je me souviens encore aujourd'hui. Elle ralentit dans sa Fiat Panda pour nous crier dessus, chose étrange, la fenêtre fermée. Je lis sur ses lèvres « Vattene, vattene, casse-toi ». Sa main fait des mouvements qui me rappellent les gens qui chassent les pigeons à Saint-Michel en criant « Dégage » pour mieux apprécier leur thé à la menthe. Et en effet, Elisabeth et moi, on s'en va à la gare pour prendre le bus à Florence. Ça a été ma première histoire de stop, pas très encourageante, pour le premier essai de voyager comme ça. À l'époque, je voulais abandonner une fois pour toutes en prenant seulement des moyens de transport conventionnels. Le train, le bus et l'avion. C'est ce que j'ai fait pendant les mois à venir, mais grâce à deux amis fous, toujours à la recherche de l'aventure, je me suis relancé et je vous raconterai comment ça s'est passé.